plus précis, il y a plein de... Vraiment. Donc l'idée, c'est simplement qu'on soit tous à peu près au clair sur cet enseignement biblique sur le monde invisible, en sachant que voilà, vraiment, on n'a pas le temps de faire des choses détaillées, et que il y a des choses que je vais survoler, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, donc il y a des choses que je vais dire comme ça, et voilà, vous pourrez avoir les références si vous voulez lire chez vous, ou ce genre de choses. Alors, le pointeur marche, mais de façon capricieuse, donc si jamais je ferai appel à la technique... c'est peut-être les piles, mais c'est quand même un tout petit peu bizarre parce que. Merci. C'est vous, c'était vous là ?
Non.
Oh, c'est incroyable. Hein. Je sais même pas. Alors, premièrement, les anges font partie de la création de Dieu. On lit dans le psaume 148. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. On voit que le psaume invite tous les éléments de la création à louer Dieu. Alors il y a les éléments qu'on connaît tous, le soleil, la lune, les étoiles, mais vous voyez qu'au-dessus, on dit « Louez-le, vous tous ces anges ». Donc en fait, quand on nous parle de la création de Dieu, on intègre les anges. Donc le soleil, la lune, les astres, mais aussi les anges doivent louer Dieu, ce dans quoi on comprend que les anges font vraiment directement partie de la création de Dieu. La seule différence, c'est qu'on ne les voit pas, en fait. Donc, ils ne sont pas moins réels que le soleil, que la lune, que les étoiles, c'est juste qu'on ne les voit pas. Ils sont invisibles. Et donc, ils sont intégrés dans la louange de Dieu parce qu'ils sont des créatures de Dieu. Et comme tout élément qui a été créé est appelé à louer Dieu, que ce soit les éléments physiques ou les éléments humains ou animaux, tout ce que Dieu a fait est appelé à le louer. Et ça implique aussi les anges qu'il a créés. Alors, là, vous pouvez m'aider parce que... Merci. Les anges sont des créatures de Dieu, et parce qu'ils sont des créatures de Dieu, ils ne peuvent être ni priés, ni invoqués, ni appelés, ni recevoir notre adoration. En tant qu'anges, ils sont en fait sur le même pied d'égalité que nous en tant que créatures de Dieu. Alors il faut savoir qu'effectivement, quand on dit ça, ça paraît très simple, mais si un jour le Seigneur vous permet de voir un ange, je le dis parce que ce n'est pas impossible, vous allez vous rendre compte que c'est une manifestation qui est tellement prenante qu'on a tendance à avoir une réaction d'adoration, par exemple. Parce qu'on a, c'est effrayant, vous voyez. Et on voit ça dans la Bible. Hein. Et on voit à plusieurs reprises des hommes qui voient un ange et qui veulent se prosterner. Et l'ange dit « Non, ne te prosterne surtout pas. » Parce qu'en fait, pour nous, c'est tellement déconcertant qu'on peut avoir une relation un peu étonnée, mais ils ne peuvent ni être priés, ni être adorés, ni recevoir notre adoration. Et on verra plus loin, en fait, que... j'y viendrai plus loin par rapport à ça. Ils sont parfois appelés fils de Dieu. Dans certains versets, notamment dans Job, on parle fils de Dieu pour parler des anges, mais fils de Dieu au sens créé par Dieu. Hein, donc comme étant émanation de Dieu, mais parfois on en parle comme ça pour parler des anges dans leur globalité, les fils de Dieu, mais c'est vraiment pour parler du fait qu'ils sont créés, qu'il y a une relation de création entre eux et Dieu. Et parfois même, notamment dans Psaume 8, verset 6, on utilise le mot Elohim qui est Dieu au pluriel, plurialisé, comme pluriel, pour parler des anges, mais c'est assez facile à comprendre, c'est qu'ils sont dans une position autour de Dieu, ils sont dans la gloire de Dieu, ils sont dans la présence de Dieu, et on utilise ce genre de terme, mais ça n'enlève pas du tout leur position de créature, ce sont des créatures. Et donc, Satan, par exemple, était un ange de Dieu, et en cette qualité-là, c'est une créature. Comme nous, sauf qu'il n'a pas le même statut, mais ce sont des créatures. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que ça permet quand même aussi d'avoir une juste position par rapport à eux. Parce que, je veux dire, on en parle très peu dans nos églises protestantes, du monde spirituel, mais il faut savoir que dans d'autres églises, on en parle beaucoup, et parfois pour faire des mauvaises choses. Et donc, c'est important qu'on soit bien au clair sur cette position qu'ils ont. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Les anges et les humains sont tous deux des êtres créés. Le psaume 8, verset 6, nous dit que nous avons été créés inférieurs aux anges. Alors, il y a actuellement, nous sommes actuellement dans une position inférieure aux anges. Nous n'avons pas la puissance des anges, nous n'avons pas la connaissance des anges, nous n'avons pas, nous sommes actuellement inférieurs aux anges. Mais la Bible nous dit que nous jugerons les anges. Donc ça, c'est, alors, ça fait partie des choses un peu paradoxales, mais nous n'avons ni puissance, ni l'autorité, ni la capacité des anges, mais en même temps, il viendra un temps où, lorsque nous serons glorifiés, nous serons associés au gouvernement de Dieu, et comme associés au gouvernement de Dieu, nous jugerons les anges. Vous voyez que les anges, en fait, ont une position particulière parce que le fait que nous soyons déchus fait de nous des êtres, en fait, très limités, limités dans la vie, limités en puissance. On est vraiment des petits êtres de pas grand-chose. Hein. Et les anges, par exemple, sont déjà éternels. On verra juste après. Nous, nous ne le sommes pas. Ils ont une puissance qu'on n'a pas. Ils ont des capacités qu'on n'a pas. Mais en même temps, lorsque nous serons dans notre vraie position éternelle, glorifiée, ben nous serons en fait en autorité par rapport aux anges et nous les jugerons. Vous voyez un peu ? Donc c'est particulier, mais c'est un peu comme ça que la Bible nous montre les choses. Donc les anges sont supérieurs aux hommes en force et en puissance ainsi qu'en connaissance, mais leur puissance est limitée. Cela est valable pour les anges déchus, pour les démons et pour Satan. Leur puissance est limitée. Donc, comme ce sont des créatures, ils n'ont pas les caractéristiques de Dieu, ils ne sont pas omniprésents, ils ne sont pas omnipotents. Ce sont des créatures avec les limites que Dieu leur a données. Alors, les anges ne sont pas omniprésents, ils se déplacent. Alors, dès lors que quelque chose se déplace, ça signifie qu'il n'est pas partout. Donc les anges se déplacent, c'est pour ça qu'il y a des moments dans la Bible où on dit, voilà, l'ange apparaît, ben, ça veut dire qu'il est là, et puis l'ange se déplace, l'ange va ailleurs. Donc l'ange est limité. Alors on verra que ça a quand même des implications importantes. C'est moi là, hein ? Ah, c'est vous, ok, merci. Vous pouvez encore aller à la suivante. Alors, les anges sont incorporels. Donc les anges sont incorporels, ce sont des esprits, mais ils peuvent se manifester de façon corporelle. Donc ça, vous connaissez beaucoup de textes comme ça. Genèse 18, verset 19, où on nous parle de trois hommes hein, qui viennent rencontrer Abraham, puis ensuite on nous dit que c'est des anges, et puis on nous dit que c'est l'Éternel. Donc ils sont incorporels, ce sont des esprits, mais ils peuvent se manifester de façon physique, concrète. Vous connaissez aussi le texte de Jean 20, verset 12, où il nous est dit qu'à un moment donné, d'ailleurs si vous lisez les différentes versions, on nous dit deux anges vêtus de blanc, et certaines versions disent deux hommes vêtus de blanc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, voilà, donc vous connaissez aussi... Donc il y a en fait quelque chose où les anges peuvent entrer dans la réalité et se manifester de façon physique, et donc à un moment donné on peut les voir. Alors c'est aussi ça qui donne lieu à certains films. Hein. C'est pas, les gens rêvent pas quand ils font certains... Par exemple, Joséphine Ange Gardien, ben, je veux dire, c'est un film, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, un ange peut concrètement se manifester. Mais aussi, vous connaissez peut-être le film La femme du pasteur. Non. Vous ne connaissez rien du tout. Il n'y a personne qui connaît. Bon, ben, dans le film La femme du pasteur. C'est avec que tu allais dire un truc déjà. Et donc, c'est effectivement. C'est l'histoire d'un pasteur qui est débordé, il n'en peut plus, son église est invivable, tout le monde est pénible. Vous voyez un peu. Et donc un ange se manifeste, un ange vient les aider. Mais donc tout ça pour dire que concrètement, ce n'est pas non plus de la pure invention, parce que les anges peuvent se manifester, et on verra après que ça peut vraiment être hyper concret. Alors, il faut se dire aussi que beaucoup de théologiens pensent que en fait les anges sont des esprits et qu'ils n'ont pas de corps, mais que quand la Bible nous parle de leur corps, ce sont des anthropomorphismes. Donc anthropomorphisme, c'est en fait l'idée que la chose n'a pas d'existence, mais pour que nous on comprenne, on nous dit, donc par exemple on va nous dire qu'ils ont des ailes, parce que sinon nous on ne sait pas le percevoir, et donc on dit qu'ils ont des ailes, mais en fait ils ne sont que des esprits. Alors moi je ne suis pas trop d'accord avec ça, je pense que les anges ont un corps, mais un corps spirituel. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on nous les montre dans la réalité, ce sont des esprits effectivement qui n'ont pas de réalité physique, matérielle, mais ils ont bien un corps qui est qui est spirituel, c'est-à-dire qui n'est pas un corps de notre... Et c'est en fait indispensable. D'ailleurs, vous savez, vous avez déjà entendu que dans la doctrine de la fin des temps, beaucoup pensent que nous aurons un corps au ciel, un corps spirituel. Nous ne serons pas des esprits, vous voyez un peu. Quand on voit le Seigneur Jésus qui revient après sa résurrection, il a un corps glorifié, spirituel. Et donc, théoriquement, les anges devraient avoir un corps du même type. La seule chose, c'est qu'effectivement, quand on les voit dans la réalité, ils peuvent se manifester soit selon l'image qu'on fait parfois avec des ailes et tout ça, soit comme des hommes physiques, ça dépend un peu. Donc, voilà. C'est vous ? Oui, ça c'est moi. Oui, mais c'est incroyable. Hein ? Donc, les anges sont très nombreux. Aussi, on a beaucoup de textes qui nous disent « Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Alors un autre texte, Apocalypse 5:11, qui dit « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Les anges sont extrêmement nombreux. En fait, on peut très facilement comprendre que les anges sont beaucoup plus nombreux que les hommes. Ils sont bien au-delà de ce que nous sommes comme nombre, 7 milliards ou 8 milliards sur la Terre. Les anges sont extrêmement nombreux. On nous parle de myriades. C'est vraiment des colonies incroyables d'anges qui sont dans la présence de Dieu et qui aussi interagissent avec les hommes. Les anges sont nombreux, on nous parle de l'expression des myriades, on nous donne l'expression des armées du ciel, on parle de l'armée du ciel, l'armée des cieux. Donc l'armée des cieux, c'est tous les anges qui accompagnent Dieu, qui sont dans le sillage de la présence de Dieu. On nous parle de myriades qui forment le cœur des anges. Et on connaît aussi Matthieu 26, 53 qui nous dit... C'est Jésus qui dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Donc en fait, c'est incroyable, mais quelque part, heureusement qu'on ne voit pas. Parce que si on voyait en tout temps la réalité spirituelle, on serait parfois effrayé de voir qu'en fait, ils sont extrêmement nombreux. Ils peuvent se déplacer en groupe, en nombre, pour accomplir certaines choses. Alors, les anges sont éternels, et donc, comme nous, ils auront un destin éternel. Vous savez que nous sommes des êtres éternels, les anges aussi, et donc, c'est pour ça que vous connaissez que certains anges iront en enfer pour l'éternité, parce qu'ils sont... donc les anges déchus, hein, les anges qui ont désobéi, mais donc ils sont humains, enfin ils sont éternels comme nous, et ils sont non sexués. Donc ça c'est ce qu'il faut dire pour être un bon évangélique et ne pas se faire agresser. Mais il faut savoir que les manifestations des anges sont pratiquement toujours masculines. Donc quand on dit qu'ils sont non-sexués, c'est-à-dire que, a priori, vous connaissez que c'est pas si simple que ça, mais là je parle de généralement, puis on viendra au point très précis, a priori ils ne se reproduisent pas entre eux, mais en même temps, on voit que quand ils se manifestent, ce sont souvent des hommes. Par contre, il y a parfois certains écrits qui disent que dans le tabernacle, sur le tabernacle. Vous savez qu'il y avait des anges sur, et certains disent que c'était un ange masculin et un ange féminin. Et ça, c'est la tradition qui le dit, c'est pas la Bible. Mais donc, vous voyez un peu. Alors, clairement, vous avez déjà senti depuis la fois passée qu'on est dans un domaine dans lequel on n'a pas toutes les réponses. La Bible ne dit pas tout. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens inventent n'importe quoi, c'est parce que la Bible n'explique pas tout, elle nous dit ce qui est nécessaire. Ça, c'est un truc qu'il faut bien retenir. La Bible nous dit ce qu'on doit savoir. Le reste, on ne doit pas chercher à le savoir, mais il faut qu'on sache effectivement qu'il y a des points de discussion. Parce que voilà, on dit ils sont non-sexués. Oui, d'accord, mais à chaque fois qu'on les voit dans la réalité, c'est des hommes. C'est bizarre. Vous voyez, ce sont des questions qui se posent légitimement, quand bien même on n'a pas les réponses. Alors, les anges sont limités, comme nous, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc les anges sont limités, ils ne savent pas tout, ils ne connaissent pas tout. J'ouvre une parenthèse évidemment à chaque fois en disant, ben voilà, du coup, nous ne pouvons pas penser que les démons savent tout, qu'ils sont au courant de tout, mais ils sont limités. Mais ils ont une capacité de connaître des choses. Les anges savent certaines choses. Et ils ont une capacité de chercher. Alors ça, c'est un texte, vous pourrez lire 1 Pierre 1, versets 11 à 12, où on dit que les anges se penchent pour voir les merveilles de l'Évangile. Mais donc, ils sont limités, mais en même temps, ils ont une capacité de connaissance des autres, connaissance du monde. Les anges sont au service de Dieu. Donc, on parle de malach, de malachim en hébreu, c'est-à-dire des messagers. Alors, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que quand on dit que les anges sont des messagers, ça veut dire qu'ils sont des agents qui exécutent la volonté de Dieu. Quand on dit qu'ils sont des messagers, ça ne veut pas dire que leur rôle est uniquement de transmettre des messages. Mais ici, c'est des messagers au sens de gens qui accomplissent ce que Dieu veut. Vous voyez ? Donc, en fait, ce sont des envoyés de Dieu pour accomplir sa volonté, que ce soit parler ou que ce soit accomplir des choses. Hein, c'est un peu comme vous envoyez quelqu'un, cette personne, vous l'envoyez, c'est votre messager. Alors c'est votre messager, ça ne veut pas dire forcément qu'il va forcément transmettre un message, mais ça veut dire qu'il va aller faire quelque chose en votre nom. On l'a envoyé, c'est mon messager. Donc les anges sont des messagers de Dieu, ce sont des serviteurs des desseins de Dieu. Ça c'est très important de le comprendre, c'est que l'ange, son rôle, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et je vais déjà le dire maintenant, vous imaginez bien que Dieu, s'il faut le dire comme ça pour que vous soyez, ce soit un peu clair, Dieu ne quitte pas son trône à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire. Dieu ne quitte pas son trône à chaque fois qu'il faut protéger quelqu'un, qu'il faut délivrer quelqu'un. Dieu envoie des anges. D'accord ? Dieu envoie des anges en son nom pour accomplir sa volonté. Alors, en fait, nous, encore dans nos milieux, l'idée est fort répandue que Dieu est omniprésent. Mais en fait, l'omniprésence de Dieu ne devrait pas signifier que Dieu est partout en même temps de la même façon. C'est-à-dire que l'omniprésence de Dieu, c'est le fait que Dieu est en connaissance complète de l'ensemble du monde. On dit la terre est son marchepied. En fait, pour Dieu, le monde entier est devant lui comme si vous voyez un des jeux de Playmobil. Vous voyez, enfin, ou des. Vous savez ce que c'est des Playmobil ou des... Oui, bon. Mais vous avez un jeu de Playmobil devant vous. Mais vous êtes omniprésent par rapport au jeu de Playmobil. D'accord ? Si vous demandez au bonhomme qui est dans le jeu de Playmobil, si vous lui demandez où vous êtes, vous l'humain qui le regarde les Playmobil, ben ils vont vous dire que vous êtes partout. Vous voyez ? Parce que pour vous, pour eux, vous êtes partout. Mais en réalité, vous êtes devant le jeu de Playmobil. Vous voyez ? Donc c'est un rapport du Dieu infini par rapport au fini. Alors, c'est pour ça que Dieu envoie des anges accomplir sa volonté. C'est parce qu'il est le Dieu qui remplit toutes choses, mais en même temps, il a besoin de gens qui fassent en son nom un certain nombre de choses, ce qui est attesté par la Bible. Parce que, sinon, Dieu n'enverrait pas des anges. De facto. Ouais. Donc, Donc les messagers sont envoyés pour accomplir les missions que Dieu leur confie. Et donc, ils accomplissent des missions. En fait, un ange, c'est un accomplisseur des missions de Dieu. Première fonction des anges, il ne faut pas l'oublier, la première fonction des anges, c'est l'adoration. Un ange, c'est d'abord quelqu'un qui... Enfin, il a d'abord première mission, c'est d'adorer Dieu. Et vous voyez ce verset qu'on a lu tout à l'heure, des myriades et des myriades qui adorent Dieu. Dieu s'est fait une armée qui accomplit sa volonté, mais qui d'abord le loue. C'est leur première fonction. Oui, mais tu... Oui. Ah voilà, ça y est. Les anges sont au service de Dieu, psaume 103, verset 20, qui peut vraiment résumer ce que je dis par rapport au fait qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. « Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Donc, qui exécutait ses ordres? Un ange est un exécuteur des ordres de Dieu. Et en obéissant à la voix de sa parole, l'ange obéit à la parole de Dieu et il intervient sur base de mandat que Dieu lui donne. Et donc les anges sont des exécutants, ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Nous voyons les anges tout au long de la vie de Jésus. Tout au long de la vie de Jésus, les anges sont là. Les anges sont là au moment de l'annonce de la naissance de Jésus. C'est les anges qui vont annoncer que Jésus va naître. Les anges sont là au moment de la passion. Il nous est dit qu'au moment de la passion de Jésus, un ange est venu le fortifier. Les anges sont là au moment de la résurrection de Jésus, près du tombeau. Ils ouvrent la tombe et ils sont là. Et les anges sont là aussi au moment de l'ascension de Jésus. Donc vous voyez qu'on ne sait pas passer à côté. Donc on a beau faire ce qu'on veut, si on veut lire la Bible, on ne peut pas passer à côté de la présence, de l'existence des anges. Et si les anges interviennent à toutes les étapes de la vie de Jésus, c'est pour nous montrer que leur rôle n'est pas un rôle anecdotique. C'est pas de temps en temps. Les anges sont réellement là en tout temps auprès de la vie des hommes comme ils étaient présents auprès de Jésus. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Et il nous est dit aussi dans Matthieu 4, 11, « Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Donc les anges étaient au service de Jésus dans le désert et donc ils ont ce mandat de servir Jésus, mais Jésus qui était pleinement Dieu, ne l'oublions pas. Les anges sont aussi au service des saints. Donc les saints, c'est vous. Hébreux 11, 14, que sont les anges, dit le début du verset, ne sont-ils pas tous des esprits? Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont des esprits, au service de Dieu, envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ça veut dire que les anges sont envoyés pour nous servir et pour accomplir des ministères envers nous, en notre faveur, de nous qui devons hériter du salut. Ils sont envoyés pour nous servir. Vous voyez, quand on dit que c'est extraordinaire d'être sauvé par Jésus, d'être devenir enfant de Dieu, ce n'est pas juste que notre nom est inscrit, qu'on est sauvé, c'est aussi que Dieu nous envoie les anges nécessaires pour nous servir. Dès lors que nous devenons enfants de Dieu, il y a des anges qui sont là et qui accomplissent. Donc le salut, c'est un tout. C'est un tout et ça contient aussi cet accompagnement de Dieu au travers de ces anges. Dans la version sommaire, on dit en effet que sont les anges des esprits aux diverses fonctions, parce que c'est à ça qu'on va venir. Ce sont des esprits qui ont diverses fonctions, ils ne font pas tous la même chose, envoyés en service pour aider ceux qui doivent hériter du salut. Chaque ange a donc une forme spécifique de service et une certaine fonction. Seigneur, merci pour le ministère des anges. Nous pouvons dire merci pour le ministère des anges. En fait, nous ne savons pas tout ce qui est déjà passé dans notre vie grâce aux anges. Nous n'avons pas d'idée. Mais nous savons que si Dieu exauce nos prières, il les exauce aussi au travers des anges. Même si nous ne le voyons pas et que nous ne pouvons pas dire ce jour-là, c'est un ange qui a fait ceci pour moi. Mais nous savons que Dieu a agi au travers des anges pour agir en notre faveur. Donc nous pouvons dire merci Seigneur pour le ministère des anges. Merci pour la grâce que nous avons des anges que tu envoies pour nous aider, pour nous accompagner. Alors, je vais passer aux fonctions des anges, mais vous pouvez passer, merci. Mais je vais aller rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et qu'il faudrait quand même qu'on aborde certains points à la fin. Donc je vais vraiment aller vite, mais voilà, je vais essayer vraiment de les citer rapidement sans... voilà. Premièrement, certains anges ont pour fonction d'exécuter des jugements de Dieu. Si vous avez encore l'image d'un dieu bisounours qui ne fait que rire à nos blagues, il faut s'actualiser. Dieu est un dieu qui juge. Et lorsqu'il juge, lorsqu'il doit juger, c'est-à-dire accomplir sa volonté, mais de façon négative, il envoie des anges. Nous avons cet exemple-là dans Apocalypse 16, où des anges accomplissent le jugement sur le monde. Dans 2 Samuel 24, où un ange, on l'a vu la semaine passée, un ange avec l'épée nue. Donc quand l'ange a l'épée nue, c'est-à-dire qu'il va accomplir un jugement. Le jugement de Sodome et Gomorre, ce sont des anges qui ont accompli ça, mais aussi le jugement des individus. Alors, Actes 12, 23 nous dit « Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. » Il y a des choses qui se passent dans la réalité et qui ont une cause spirituelle. On ne peut pas savoir quoi. Mais vous voyez que... Allez, je vais vous donner une image, parce que peut-être que vous ne voyez pas un peu l'idée. On nous parle de cet homme qui n'a pas donné gloire à Dieu, et on nous dit qu'un ange du Seigneur le frappa. Si vous étiez devant cet homme au moment où il est mort, vous auriez vu quoi ? Vous auriez vu un gars qui tombe par terre sans raison. Et il serait mort. Vous voyez ? Donc vous voyez juste un gars qui meurt devant vous, mais le texte vous dit qu'en fait c'est un ange du Seigneur qui l'a frappé. Donc vous voyez un peu l'idée, c'est qu'il y a parfois des choses qu'on voit concrètement, on dit mais je ne comprends pas ce qui vient de se passer, ben oui, ben parce qu'en fait il peut, alors évidemment il ne s'agit pas de dire que tous les gens qui meurent sont frappés par des anges, vous avez compris l'idée, mais ça arrive, le texte nous dit que c'est aussi des choses qui se passent. Vous connaissez le texte d'Ananias et Saphira aussi, ce sont des choses qui ont un pendant spirituel et qui se manifestent dans la réalité. Et parfois, on ne comprend pas, on dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, mais parce qu'il y a aussi tout ça. Donc, voilà, vous avez compris l'idée. Hein. Il y a aussi des anges qui viennent exprimer la bonté de Dieu. C'est l'exemple de Gabriel qui vient annoncer une bonne nouvelle. Oups. Il y a aussi des anges qui viennent apporter la guérison ou la force. Luc 22, 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, en parlant de Jésus. Donc il peut y avoir des moments comme ça où vous êtes, il y a quelqu'un qui est là, découragé, déprimé, et puis tout à coup, hein, ça va mieux, je me sens revigoré. Vous voyez, c'est la même chose, vous voyez quelqu'un de découragé qui est encouragé, mais vous ne savez pas que c'est peut-être un ange qui est venu pour le fortifier, comme le texte nous le dit. Alors là, on peut penser qu'effectivement Jésus l'a vu, parce que Jésus avait cette perception du monde spirituel, mais nous ne l'avons pas en tout temps. Mais vous voyez que ça a une implication. C'est pas, les anges ne font pas que des choses extraordinaires. Parfois, ils viennent juste nous fortifier, apporter une guérison, apporter, voilà, je viens, je t'encourage, et puis tu continues ta route. Les anges qui encouragent, c'est Paul qui dit « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc un ange est venu lui dire, Paul, prends courage. Donc un ange qui vient, qui encourage, qui nous dit, bah, allez, tiens bon. Donc quand vous voyez, si vous rencontrez un jour quelqu'un qui vous dit, bah, oui, j'étais en train de dormir, un ange m'a réveillé, il m'a dit ça, la personne peut mentir, elle peut raconter n'importe quoi. Mais en même temps, vous devez savoir que dans la Bible, ça existe. Donc, il n'y a pas de raison valable pour qu'aujourd'hui ça n'existe jamais. Donc des anges qui encouragent. Des anges qui viennent à notre secours. Aucun malheur n'approchera, ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te porter dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre contre une pierre. Nous pouvons penser... Nous sommes des humains, il peut nous arriver plein de choses et que Dieu nous préserve tous, mais tous ici, Il vous est déjà arrivé d'échapper à un accident de voiture en une seconde. Eric m'avait raconté un jour qu'il allait à la semaine universelle de prière et qu'à un moment donné, tu te souviens de ça, Eric ? Voilà, donc il n'a pas d'explication sur comment son volant... voilà, donc évidemment qu'on ne va pas à chaque fois qu'il se passe quelque chose dire ben, « c'était un ange ». Mais non, mais on doit savoir qu'il y a ça qui joue, voyez, et que ça arrive, ce genre de choses. Donc on peut imaginer des anges qui, à un moment donné, interviennent dans des accidents de voiture pour nous garder. Je connais quelqu'un qui, effectivement, quand il a eu un gros accident de voiture, les policiers sont arrivés en disant « mais où est la voiture accidentée ?»« Ben, elle est là. Vous êtes sorti de là ?»« Ben oui, voilà, j'ai eu un accident. » Quand vous voyez la voiture, vous dites « la personne n'a pas pu sortir de là, c'est impossible. » Ben si, parce qu'il y a les airbags physiques, mais aussi il y a les airbags spirituels. Et donc, il y a des anges aussi qui peuvent intervenir pour nous sauver de ce genre de situation. Alors, des anges aussi qui apportent la délivrance, mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fit sortir. Donc là, on en a parlé la dernière fois, et vous connaissez le texte de Daniel, extraordinaire. « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. » Vous voyez, c'est ça être enfant de Dieu. Hein. C'est ce que Dieu fait pour nous. Hein. Il envoie des anges pour nous sauver de ce genre de situation concrète. Alors en même temps, clairement, et c'est pour ça qu'il faut. Il y a plein de gens dans la même situation que Daniel qui ont été tués par les lions. Il y a plein de chrétiens persécutés qui ont été tués par les lions. Donc ça dépend du plan de Dieu et de la volonté de Dieu à un instant précis. Mais on doit savoir que Dieu peut aussi le faire. Alors des anges aussi, je vais vite, qui donnent des indications. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza ». Celui qui est désert. Il y a aussi des anges qui viennent, vous voyez l'exemple ici, qui viennent et qui disent à Philippe, ben, lève-toi, va là-bas, fais ça, fais ça, fais ça. C'est juste un ange qui vient et qui dit, ben, voici ce que Dieu te demande de faire. Mais aussi, il y a des anges qui expliquent les choses. C'est Zacharie qui dit, je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur ? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. Et si vous lisez Zacharie 1, en fait, l'ange, il lui pose... Zacharie pose des questions à l'ange et l'ange lui explique « Mais en fait, c'est ça, en fait, c'est ça, en fait, c'est ça. » Donc les anges, parfois, viennent juste pour nous expliquer des choses que nous ne comprenons pas. Et comme je le dis, il faut bien se dire qu'évidemment, il y a des situations dans lesquelles l'ange est visible, mais on peut imaginer des situations où l'ange nous parle, mais nous ne le voyons pas. Voyez, donc, ouais. Donc ça, c'est toujours la même idée. Dans Daniel aussi, il y a ça, des anges qui viennent expliquer les choses. Toujours dans Zacharie 4, en prenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce qui signifie ces choses ?» Donc, il vient, il dialogue avec l'ange. Toujours la même idée des anges qui viennent donner des explications à Daniel. Des anges qui transmettent aussi la parole de Dieu, c'est très important de savoir. Apocalypse 1, verset 1, nous dit, « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » N'oublions pas que l'Apocalypse de Jean, c'est le fruit de l'enseignement d'un ange qui a parlé à Jean. Donc, vous voyez, ils sont quand même très impliqués. L'un ange qui a été envoyé par Christ pour transmettre à Jean le message de l'Apocalypse que nous avons. Des anges qui veillent, dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendus des cieux. On parle ils veillent, les anges qui veillent. Ils veillent à certaines choses. Et c'est pour ça que dans certaines traditions juives et chrétiennes, on pense par exemple qu'il y a des anges qui sont affectés à l'enregistrement des vœux. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient faire un vœu, il y a des anges qui viennent inscrire le vœu qu'on a fait. Donc, je promets de t'aimer, machin, voilà, on a pris note. Bon, il y a des anges qui seraient affectés simplement à veiller à certaines choses, à inscrire. Ça, c'est la tradition qui le dit. Mais vous voyez un peu l'idée, on peut tout à fait imaginer cela. Et encore une fois, c'est toujours la même idée. Dieu nous dit ne faites pas des vœux en vain. Ce qui signifie que nos vœux sont enregistrés. Donc certains imaginent que c'est peut-être un ange qui vient enregistrer. Vous voyez ? Mais ça, on n'en sait rien, mais vous voyez un peu tout ce que les anges pourraient avoir à faire en réalité. Autre fonction, Luc 16 nous dit que c'est un ange qui a transporté le corps dans le sein d'Abraham. Il est donc aussi possible que ce soit les anges qui fassent les transitions lorsque nous mourrons. Il nous est dit que les anges rassembleront les élus d'Israël, que les anges sépareront les méchants des justes et que les anges se tiendront devant les portes de la Nouvelle Jérusalem. Oui. Alors, maintenant je ne vais pas parler des différents types d'anges, je vais sauter ça. Et c'est quand même très important, mais... Oui, je vais sauter ça, parce que sinon... ça va être compliqué. Vous avez vu tout ce que je saute pour vous, hein, pour que vous puissiez être à l'heure devant votre repas. Hein. Ah, faudra prendre une bouchée pour moi, hein, parce que... Bon. Alors, je vais juste m'arrêter dans les minutes qui nous restent sur les anges et nous, parce que c'est quand même important qu'on puisse quand même tirer ces conclusions. Peut-être que je reviendrai sur le reste après, je ne sais pas. Mais voilà. Les anges et nous. Présent sans que nous le sachions. Le texte nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Vous savez que ça fait référence au texte de Genèse, justement, où... Abraham reçoit des anges. Et donc, nous devons être bien conscients que un ange, c'est avant tout une créature spirituelle, mais ça peut être aussi quelqu'un ou quelque chose que Dieu envoie vers nous dans un but précis. Et c'est comme ça qu'on vous dit, voilà, exercez l'hospitalité, parce que sans le savoir, vous pouvez accueillir un ange. Et donc, l'accomplissement de la volonté de Dieu, dans ce cas-ci, c'est l'hospitalité, favorise les contacts avec les anges. Donc, en fait, là, c'est l'hospitalité, mais en fait, on peut comprendre que chaque fois que nous accomplissons la volonté de Dieu, nous pouvons savoir que Dieu va assigner des anges à l'acte que nous posons. Chaque fois que nous accomplissons la volonté de Dieu. Et donc, il faut se rendre compte aussi que, comme on le voit dans les films, les anges, ça peut être aussi des réalités comme ça qui en est s'humanisent, mais qui sont envoyés par Dieu. Et donc, il y a l'histoire que je ne connais pas dans les détails, parce que je j'ai pas eu l'occasion de demander à la personne les détails, mais il y a l'histoire de ce couple, enfin cette famille, qui avait recueilli un monsieur qui était, je ne sais pas si SDF, ou en tout cas quelqu'un qui était tout à fait en situation de difficulté, et qui l'ont recueilli dans leur maison pendant plus de 10 ans, et qui l'ont accueilli, qui ont pris soin de lui, qui l'ont aimé, qui l'ont soutenu, qui ont fait place, donc qui ont exercé l'hospitalité envers lui. Et quelques bonnes années après, l'enfant de ce couple-là est tombé malade. Et donc, il a eu une maladie assez grave, et je ne sais pas exactement quels sont les détails de cette maladie-là. Cette maladie nécessitait, je ne sais pas si c'est une transplantation ou je ne sais pas quoi, mais ils ont donc fait les tests, et c'était quelque chose d'assez rare, une pathologie assez rare, et donc on fait les tests sur les parents, on se rend compte que c'est pas compatible, et puis on fait le test sur l'homme accueilli dans la maison, et on se rend compte que c'est compatible. Et donc, sur base de ça, ils ont pu sauver leur enfant à cause de cette personne qu'ils ont accueillie chez eux. Vous voyez ? Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est un peu dans l'idée de ce texte-là, c'est que vous exercez l'hospitalité sans savoir, mais en fait, Dieu vous a envoyé un ange pour votre situation. Et vous ne savez pas que c'est un ange au moment où il arrive. Mais alors, ça peut être un vrai humain, hein ? Vous voyez, ça peut être un vrai humain. Mais il est un ange au sens où c'est Dieu qui l'a envoyé pour un but précis. Vous voyez, donc il faut aussi être conscient de tout ça, et ça va dans le sens de ce texte, vous accueillez un ange sans le savoir, vous ne savez pas que en fait, vous accueillez quelqu'un par lequel Dieu va faire quelque chose pour vous. Mais donc ça veut dire qu'on doit être attentif à faire la volonté de Dieu, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu peut accomplir quand nous accomplissons sa volonté. Les anges sont à nos côtés. Ah oui, je vais quand même parler de ça, parce que, désolé, hein, mais Francis a vraiment, et Eric, ils ont vraiment respecté le temps, mais voilà, bon... Le texte de Matthieu 18, 10 nous dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Des anges qui voient continuellement la face de leur Père, et on voit bien qu'on dit « leurs anges dans les cieux ». Alors ce verset a donné lieu, vous le savez, à la doctrine catholique romaine des anges gardiens. Alors les protestants disent mais c'est n'importe quoi, c'est catholique, ils racontent n'importe quoi, c'est tous des nuls, ils inventent toutes des bêtises. Alors vous avez vu que le texte dit car leurs anges. Donc je dis pas qu'ils ont raison, mais je dis qu'arrêtons de croire que les catholiques sont des fous. Ils font des trucs sur base de versets comme nous. Et on voit aussi que dans, par exemple, Genèse 48 verset 16, c'est la Bible toujours. Il est dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants et qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de... Donc il parle de ses enfants, il dit que l'ange qui m'a accompagné les accompagne. Donc il y a des versets dans la Bible qui nous montrent clairement qu'il y a des anges qui nous accompagnent. Des anges qui accompagnent nos vies, des anges qui sont à nos côtés. Vous l'avez vu dans le verset là, en ce qui concerne les enfants, vous le voyez dans le verset d'après. La doctrine des anges gardiens, c'est l'idée qu'un ange gardien serait assigné à la protection d'un individu. Et donc l'idée, c'est que Dieu enverrait un ange gardien pour chacun et qu'on marcherait toujours accompagné de cet ange gardien. Alors d'autres versets qui font penser ça à certains, c'est notamment Acte 12, verset 15, où il est dit, c'est quand Pierre revient, ils lui dirent « tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent « c'est son ange ». Donc c'est l'ange de Pierre. Donc c'est aussi un verset qu'on utilise pour dire ben voilà, chacun a son ange puisqu'on dit que c'est l'ange de Pierre. Okay? Et vous avez aussi Psaume 34 verset 7 qui dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe. Donc, camper c'est pas c'est rester là. Alors, on peut en tirer comme conclusion qu'il faut un équilibre biblique en sachant que la doctrine des anges gardiens ne peut pas être telle qu'elle soutenue depuis la Bible. Donc nous n'avons pas dans la Bible quelque chose qui nous dit qu'effectivement tous les croyants ont un ange gardien qui les accompagne. Mais il est en accord avec l'ensemble du texte biblique de penser que les croyants sont accompagnés par des anges dans leur vie quotidienne. Vous voyez ? Donc on ne peut pas dire que la doctrine des anges gardiens est biblique, mais on ne peut pas non plus dire qu'on n'a pas effectivement des anges qui nous accompagnent. Puisqu'on vient de lire que c'est le texte nous le montre. L'équilibre consiste donc à affirmer qu'il y a des anges à nos côtés, sur base de toutes les promesses divines que l'on voit, sans nécessairement systématiser et en tirer des conséquences qui sont absentes des Écritures. Ce qui est exclu pour nous, c'est tout ce qui provient de l'ésotérisme. Ce qui est exclu, c'est de rechercher qui est notre ange gardien, ce que certains font. Donc on a l'horoscope, on a notre date de naissance et on regarde dans la liste, ah mon ange gardien s'appelle Malkiel et donc je suis accompagné par Malkiel. Ça n'est nulle part enseigné dans la Bible et ça on sait que ça peut être entièrement rejeté. Ce qui est exclu, c'est de prier ou d'invoquer son ange gardien ou d'invoquer un ange. Donc il y a certains qui disent, voilà, moi il y a l'ange qui m'accompagne, alors je lui dis, mon petit ange, protège-moi, garde-moi. C'est exclu dans la Bible, ça n'existe pas. Ce qui est exclu, c'est d'être rassuré par la présence des anges et de leur faire confiance. On n'a pas à faire confiance aux anges. On n'a pas à être rassuré parce que les anges sont là. On doit faire confiance à Dieu. Et Dieu s'occupe de savoir comment il nous protège. Donc il ne faut pas se dire, ah non, moi ça va, tout va bien parce qu'il y a mon ange gardien à côté de moi. Il faut se dire, tout va bien parce que j'appartiens à Dieu et que Dieu veille sur moi. Vous voyez un peu l'idée ? Ce qui est exclu aussi, c'est de chercher à rentrer en contact avec un ange. Si un ange vient vous rencontrer, ben voilà, il faut l'accueillir, savoir ce qu'il vient vous dire, mais il est exclu de chercher à entrer en contact avec un ange. Alors, je termine, hein, vous en faites pas, il ne reste plus rien. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les messagers de Dieu, c'est non seulement les anges êtres spirituels, mais il y a aussi tous les gens que Dieu envoie vers nous et qui, en fait, font office d'anges parce que Dieu les envoie vers nous. Hein, donc c'est pour ça qu'on entend l'expression « tu es mon ange, oh là là, mon ange, tu me sauves ». Mais il est vrai qu'il y a des moments comme ça, vous l'avez certainement vécu dans vos vies, vous êtes dans une situation où vous avez quelqu'un qui débarque avec une solution à un problème, Et vous dites, mais c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est pas possible autrement. Oui, donc c'est aussi des choses qu'il faut comprendre, c'est que ça rentre dans la réalité des messagers. Voilà. Alors, l'attitude de l'enfant de Dieu, je termine par là. L'attitude de l'enfant de Dieu doit être, premièrement, d'être conscient de l'existence et de la présence des anges. C'est un problème que des chrétiens vivent en ne sachant pas que les anges existent. Mais l'attitude des enfants de Dieu doit être aussi d'éviter tout ce qui peut éloigner les anges ou empêcher leur action. Nous savons que dans la Bible qu'il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit. Eh bien, on peut penser aussi qu'il y a des choses qui font fuir les anges. Par exemple, on peut imaginer que le blasphème fait fuir les anges. Si vous blasphémez, si vous avez un ange qui est près de vous, il est envoyé par Dieu, et qu'il est là et qu'il doit entendre vos blasphèmes, il va s'en aller, il n'est pas là, il ne va pas pouvoir supporter ça. On sait aussi, ça c'est quand même beaucoup plus clair dans la Bible, on sait que ce qui fait fuir les anges, c'est notamment l'impudicité. Mais quand je dis l'impudicité, c'est pas au sens... c'est le manque de pudeur. Ça fait fuir les anges. C'est pour ça aussi que dans l'Église, on veille toujours à ce que tout le monde vienne pudiquement. Donc nous devons faire attention à ne pas faire fuir les anges, mais simplement en accomplissant la volonté de Dieu. Nous devons comprendre que vivre selon Dieu permet la bonne action des anges. On a l'exemple avec l'hospitalité. Nous ne devons pas être concentrés sur les anges, mais être centrés sur Dieu. Les anges sont au service de Dieu en notre faveur. C'est très important l'expression. Ils sont au service de Dieu en notre faveur. Ils ne sont pas à notre service. Nous n'avons pas à leur dire ce qu'ils ont à faire. Nous n'avons pas à chercher à dialoguer avec eux. C'est Dieu qui doit leur dire ce qu'ils ont à faire vis-à-vis de nous. Notre attention doit donc être tournée vers Dieu et non vers les anges. Ils doivent obéir à Dieu et pas à nous, on ne les prie pas. Et enfin, notre attention doit être tournée vers Dieu et pas sur les anges. Nous ne devons pas nous détourner des anges. Le chrétien est en lien direct avec Dieu par Jésus-Christ, sans besoin de médiation humaine. Nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons Jésus, le souverain sacrificateur. Nous n'avons pas non plus besoin de passer par un ange pour parler à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'invoquer un ange pour quoi que ce soit. Ils ne sont pas nos intermédiaires vis-à-vis de Dieu. Nous avons accès à la présence de Dieu. Mais il est vrai qu'ils peuvent être intermédiaires de comment Dieu agit envers nous. C'est au travers d'un ange que Dieu peut intervenir dans nos vies. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à vivre dans la joie d'appartenir à l'Éternel. Amen.